commencer. Peut-être vous dire, on est très heureux, je suis très heureux, nous sommes très heureux donc d'accueillir Valérie Calignon ce soir. Alors, pour certains d'entre vous, je pense entre autres aux enseignants de l'école, présenter Valérie est presque superfétatoire, mais pour les étudiants, vous dire d'abord que Valérie, c'est une ancienne diplômée de l'école, Camondo, on est d'autant plus fiers. Valérie, tu es agrégée en art appliqué.
C'est comme ça qu'on dit.
Enseignante à l'école Boulle, tu enseignes le design d'espace.
C'est comme ça qu'on dit aussi.
Et plus récemment, docteur en histoire de l'architecture.
De l'art, c'est comme ça qu'on dit, mais de l'architecture.
Historien d'art. Historienne d'art. Et donc, une thèse que tu as soutenue en décembre dernier sur la question de l'intériorité. Alors, vous dire que c'est quelque chose qu'on suit les uns les autres. De loin en loin, parce que effectivement Valérie est peut-être le seul chercheur, ma connaissance, à travailler véritablement sur ce sujet, celui de l'architecture d'intérieur et de son histoire, et qui tu as commencé un travail il y a quand même un certain temps maintenant, à travers un DEA à l'époque, un master, enfin l'équivalent d'un master 2, sur cette question-là, et finalement question qui reste, à mon avis, enfin qui est un territoire jusqu'à maintenant à défricher, à connaître, à découvrir, et tu vas nous le faire découvrir ce soir. Donc, on est particulièrement attentif à cette histoire, à cette nouvelle histoire de l'architecture intérieure. Je te laisse la parole.
Merci Yannick. Est-ce qu'on est, on éteint le...
On peut éteindre.
Alors là, c'est très noir. Là je vais un petit peu manquer de lumière quand même.
Vous avez fait là.
Voilà, donc, comme Alexine vient de le dire, donc, ça fait un peu plus de 30 ans que j'étais ici, donc ça fait très 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 longtemps. Et je ne sais pas si... Enfin, j'imagine que peut-être vous vous posez encore les mêmes questions que celles que je me posais à l'époque, c'est-à-dire de savoir comment finalement énoncer la spécificité de ce qu'on fait dans cette école, comment l'expliquer.
Est-ce que vous pouvez parler un peu plus fort ou prendre un micro?
Ah, mais on ne m'a pas proposé de micro. Donc, il faut que je parle beaucoup plus fort. Ouais. Donc, comment expliquer à d'autres de quoi ils retournent dans cette école qui est tendue donc entre deux cultures qui sont celles de l'art de bâtir, enfin de l'espace construit, de l'architecture, et celle de l'objet, voire de l'industrie, du design. Non seulement ces deux cultures, mais ces deux histoires, ces deux quasiment rapports au monde différents, puisque un rapport au mode de production différent, un rapport au mode de commande différent, un rapport à une économie différente, donc assez peu de points de connexion en fait entre ces deux univers. Et en outre, je rajouterai un troisième terme qui me semble être transversal à ces deux mondes, qui est celui de décoration, qui, alors là, pour le coup, il y a 30 ans, faisait vraiment figure de blasphème dans le cadre d'un enseignement supérieur de l'architecture intérieure. Il me semble que peut-être les choses ont un peu changé, mais j'en suis pas complètement certaine. Donc en fait c'est quelque part entre ces trois univers qu'il s'agirait de se situer, dont un qui est indicible, invisible et inaudible, en tout cas dans le cadre de l'enseignement. Et moi finalement j'ai fini par me dire que le terme d'habiter était peut-être celui qui correspondait le mieux pour essayer d'énoncer de quoi il s'agit, hormis le fait qu'il y a un rapport à l'échelle qui est un peu spécifique aussi, un rapport au détail aussi vraisemblablement, dans chacun de ces trois mondes. Mais voilà, habiter me semblait être le bon mot, et puis il se trouve qu'il est en plus en tête du nom de votre séminaire, donc c'est très bien, c'est parfait. Donc, en général, ça, j'imagine aussi que vous l'avez déjà fait, puisque c'est le nom de votre séminaire habité, mais en général, je commence par ça, par définir les mots. Alors, habité, bon, on va pas en faire des tonnes, mais disons que de façon très, très simple, on peut dire que c'est occuper un lieu pour un temps donné, s'y installer, y créer des relations, des possibilités d'usage, des habitudes, ce qui signifie que l'habitation ou le logement n'est pas le seul endroit qu'on habite, bien entendu. On habite un bureau, un hôpital, une prison, une salle de classe, autant que son logement. Et puis l'habiter est devenu en fait un substantif grâce ou par Heidegger en 1951, qu'il a entendu et qui m'intéresse particulièrement, puisque Heidegger disait que non seulement l'homme est pour autant qu'il habite, mais c'est seulement quand nous pouvons habiter que nous pouvons bâtir. Ce qui signifierait que non seulement le fait d'habiter est consubstantiel à l'homme, mais qu'en outre, il préexiste au fait même de bâtir, ce qui n'est pas rien. Et par rapport au terme d'inventeur ou d'inventrice, je trouve que les trois acceptions communes de ce terme, enfin celles qu'on a, qui sont habituellement énoncées, correspondent assez bien aux trois domaines que j'ai commencé par énoncer. Soit, et je vous laisse trouver à quel domaine chacune de ces définitions pourrait correspondre, donc soit une personne qui crée quelque chose de nouveau, donc au sens littéral un créateur ou un auteur, soit une personne qui trouve et qui découvre quelque chose qui préexiste mais que d'autres, que les autres n'ont pas encore trouvé ou n'ont pas encore identifié, soit une personne qui imagine ou qui donne comme réel quelque chose qui pourrait être fictif. Donc quelqu'un qui est capable de raconter des histoires, de scénariser, d'inventer une histoire, voire une fiction totale. Alors là, on fait un rapide saut spatio-temporel très très fulgurant pour se souvenir que ça fait quand même 150 000 ans que l'homme aménage des intérieurs et habite à l'intérieur de quelque chose, donc au départ une caverne, et que ça fait 30 000 ans qu'il décore ces cavernes. C'est-à-dire que ça fait au moins 20 000 ans avant de construire, avant d'édifier des bâtiments, des groupes humains habitaient à l'intérieur de quelque chose et décoraient ce quelque chose. Et on estime que ces premiers efforts d'aménagement intérieur, ce qu'on appelle un foyer aménagé, correspondent à la possibilité, au démarrage d'une civilisation, puisqu'ils correspondent à la possibilité de commencer à établir des relations privilégiées entre les gens et des relations choisies entre les êtres humains. Et puis si on se projette dans le futur, dans l'espace, ce futur qui a commencé en 1961 quand on a eu un premier habitant de l'espace, on voit bien que là aussi, ce ne sera pas par l'architecture et par la structure construite qu'on habitera dans l'espace, mais quelque part entre le vêtement et la capsule, donc entre le textile armé, on va dire, et le macro-objet ou la micro-architecture. Ici, là, quand même revenir ou venir à la première définition de l'architecture, ou en tout cas aux trois termes qui permettraient de la définir selon Vitruve, solidité, usage et beauté, et où on voit bien que le bâti construit correspondrait à la valeur de solidité et que donc l'habité, lui, relèverait d'une tension entre deux termes qui seraient l'usage et la beauté, ou l'esthétique et la pratique. Donc, en clair, la structure bâtie serait le hard de l'architecture et l'habité en serait le soft. Ici, je voudrais parler de dispositif d'habitation. Alors, dispositif d'habitation signifierait quelque chose qui démarre à partir de l'objet ou à partir de relations établies entre les objets et qui permettrait une certaine stabilité et une certaine pérennité d'un espace indépendamment du fait qu'on est dans une structure pérenne ou qu'on est dans un temps dédié. C'est-à-dire que, par exemple, donc la yourte ici, qui est un habitat qui se reproduit exactement à l'identique depuis environ un millier d'années, n'a évidemment pas nécessité de murs construits pour se répéter de façon pérenne et identique et stable. Donc c'est une stabilité fabriquée à partir des objets et à partir de l'organisation des objets entre eux. Ah oui, ça va être bien. Parce que, je ne sais pas si on m'entend au fond, mais je vais avoir du mal. Et à droite, ce bureau qui n'est pas celui de Roland Barthes, parce que je n'ai pas trouvé la photo du bureau de Roland Barthes, mais c'est pour évoquer Roland Barthes, qui parlait de ces deux bureaux, l'un à Paris et l'autre dans le sud-ouest de la France, en disant qu'il ressentait une forme d'ubiquité possible de l'espace, car, disait-il, ayant installé exactement le même dispositif d'écriture dans l'un et l'autre cas, et sans doute peut-être même la même lumière artificielle, simplement par le fait des mobiliers et objets qui lui permettaient d'écrire d'une certaine façon, il avait le sentiment d'être ici ou là, exactement au même endroit. Donc on voit bien que c'est voilà, cette idée du dispositif d'habitation est quelque chose qui relève spécifiquement de ce soft et qui est totalement indépendant de la nature des murs qu'il abrite. Donc ces fameux inventeurs d'habiter ou inventrices d'habiter, si du côté de l'architecture on peut dire qu'entre maître maçon, maître d'œuvre, architecte, on a assez vite fait le tour des termes qui décrivent celui qui construit, du côté des inventeurs d'habiter, on a un certain nombre de mots qui ont parcouru les siècles ou se sont arrêtés ou n'ont plus fonctionné, sont devenus obsolètes, etc. À commencer par l'habitant qui est le premier inventeur d'habiter, ne l'oublions pas. Alors c'est mieux, ben, je ne sais pas, ça ne marche pas.
Non. On dirait que ça marche.
Non, on dirait que ça marche pas du tout. On dirait... Si, ça fait quelque chose ?
Non, hein. Ah oui, d'accord. Donc, vous me dites si c'est trop fort ou pas. Si
après, là, on règle.
Voilà. Donc voilà, donc l'habitant est le premier de ces inventeurs d'habiter. Et parmi ces termes, donc, dont certains sont nés seulement au 19e, au 20e siècle, certains sont tombés en désuétude comme ornemaniste. Le terme de décorateur est sans doute celui qui est le plus polysémique hein, et qui aura vécu les plus grands hauts et bas à travers l'histoire, puisque au XVIIe siècle, il était synonyme d'une sorte d'excellence architecturale, quand à partir de la deuxième moitié du XXe siècle, il n'existe plus du tout, il est enfin, absolument séparé en tout cas et rejeté par le monde de l'architecture, voire le monde du design. Donc là, on va parcourir très très vite pour rappel ce qui se passe à partir du moment où on entre dans notre modernité à nous initiale, c'est-à-dire le Moyen-Âge occidental. Donc vous savez tous, je pense, qu'à ce moment-là, les bâtiments n'ont pas de pièces avec des fonctions affectées et que donc on habite les pièces en fonction des meubles qu'on y met et que la fonction des pièces arrive par les objets et par les mobiliers. Donc là, où on dresse le lit se trouve la chambre pour dormir, là où on dresse la table se trouve la salle du festin, et ce sont les tapissiers et les menuisiers qui se trouvent en avant-poste des déplacements des cours royales et princières pour installer dans ces bâtiments des espèces d'architecture textile ou de bois éphémères qui vont permettre l'installation de quelquefois plusieurs milliers de personnes pour quelques mois. Cette image de voilà, c'est une de mes images fétiches, celle de Saint Jérôme dans son cabinet de travail. Il a été peint par un nombre de peintres entre le 14e et le 17e siècle absolument incroyable. Si vous tapez Saint Jérôme cabinet de travail, vous allez voir, c'est assez extraordinaire. On en trouve toute une flopée, mais celui-ci, je trouve, c'est vraiment un des plus beaux. Et il a été commenté par Georges Perec dans Espèce d'espace, qui dit à propos de ce Saint Jérôme. Qu'il admire la sorte de sérénité dans l'étude concentrée du saint à l'intérieur de l'inhabitable de la cathédrale. Et il dit que c'est le meuble qui fabrique de l'habitabilité dans l'inhabitable de la cathédrale. Alors moi, je me suis toujours dit, mais pourquoi il parle d'inhabitable de la cathédrale ? Parce que finalement, cette cathédrale, elle est quand même assez belle. Enfin, et en fait, ce que je comprends, c'est qu'il parlait d'une sorte d'ajustement d'échelle nécessaire. C'est-à-dire que s'il y a un habitable de cette cathédrale, c'est un habitable collectif et un habitable d'exception. alors que l'habitable de Saint-Jérôme, enfin, qui lui est nécessaire, c'est un habitable quotidien, individuel, et qui a besoin d'une réduction d'échelle. Donc une réduction des perspectives, un adossement, un changement de matérialité, et un certain nombre d'objets domestiques et de décorations qui ne peuvent exister à l'échelle collective et magnifique de la cathédrale. Alors, on peut dire que, en gros, jusqu'à la fin du XVIIe siècle, l'habité intérieur dans les grandes demeures se fait comme ça, entre décors accrochés, collés, tapisseries, tentures et grands meubles, objets, qui sont finalement relativement indépendants de la structure qui les abrite. Mais pourtant, dans le même temps, ça marche pas très bien, si, ça va. Mais pourtant, dans le même temps, à partir du milieu du XVe siècle, on va dire tout ce qu'on appelle le tratatisme, c'est-à-dire tous les traités d'architecture qui commencent à s'écrire, petit à petit aboutir à ce travail de Jacques-François Blondel, donc qui est à la fois architecte, théoricien, qui a créé une école d'architecture, c'est-à-dire qu'il veut faire école en plus, et qui, lui, pour la première fois, établit une théorie qui complète, hein, qui tend à fusionner absolument complètement la structure du bâtiment et les intérieurs qui permettent de l'habiter. Et il le fusionne dans le sens d'un assujettissement absolu de l'intérieur au mur, c'est-à-dire que doivent correspondre en intérieur des fonctions qui sont visibles, si vous voulez, c'est comme s'il y avait une résonance entre l'extérieur et l'intérieur du mur, et c'est ce qui donne ces meubles qu'on appelle à ce moment-là des meubles assujettis ou des meubles d'architecture. J'ai oublié de dire que, bien entendu, donc on a démarré avec le mobilier volant ou le mobilier mobile, comme son nom l'indique. On est passé à des meubles dormants, c'est-à-dire des meubles éventuellement accrochés au mur à partir de la fin du XVIe siècle. Et puis là, on a des meubles complètement, non seulement intégrés, mais assujettis, c'est-à-dire qui dépendent de la structure même des murs. Et non seulement il assujettit les meubles dans les pièces de représentation, donc dans les pièces nobles, mais il imagine aussi accrocher la salle de bain au mur, c'est-à-dire que les réseaux d'eau qui commencent à s'installer dans l'épaisseur des maçonneries sont bien la preuve que là aussi, on cherche à fixer de façon définitive l'usage des pièces. Vous imaginez bien que la baignoire qu'on pouvait auparavant déplacer n'importe où puisqu'il suffisait d'aller chercher des seaux d'eau pour la remplir, à partir du moment où elle est accrochée à des tuyaux qui donnent l'eau et qui permettent l'évacuation, fixe définitivement les fonctions à l'intérieur d'un bâtiment. Donc on est à un moment donné là où une espèce de cristallisation commence à se mettre en place entre l'affectation des pièces, la construction architecturale et l'affectation des usages. Ce qu'on voit là aussi assez bien, j'aime beaucoup ce joli dessin qui est comme une pâtisserie viennoise, hein, mais qui est londonienne, qui est donc un dessin d'architecte dont j'ai oublié le nom, mais peu importe, ce qui nous intéresse, c'est de savoir c'est qu'il est architecte, et que donc il éprouve le besoin de dessiner dans ce projet-là, non seulement des meubles qu'il estime être suffisamment importants pour appartenir en quelque sorte au mur et à la définition de l'architecture, mais aussi la couleur et le motif des papiers peints, enfin c'est pas rien, tout ça est vraiment très très précisément énoncé, et ceci était totalement absent des plans et des coupes d'architectes au XVIe siècle. Si vous regardez un dessin de Palladio par exemple, c'est impossible de savoir à quoi une pièce peut bien servir dans une organisation totalement symétrique et dans laquelle rien n'est représenté de ce qui va permettre l'usage et l'habiter. Et puis, en même temps que les architectes donc commencent à se dire que c'est à eux de tenir cette possibilité d'habiter à l'intérieur des murs qu'ils construisent, dans le même temps, néanmoins, se développe aussi tout un artisanat d'art et les tapissiers menuisiers du Moyen-Âge sont devenus tapissiers décorateurs, et puis de tapissiers décorateurs, ils sont devenus tapissiers ensembliers ou menuisiers meubliers ensembliers. Bref, ils font de l'ensemble, donc ils proposent du décor à la carte sur des catalogues dont ceux-ci sont des planches de ces catalogues, et évidemment ces catalogues vous proposent mais vraiment au choix absolument ce que vous voulez, un boudoir chinois, une chambre mort, un salon Louis XV ou antique, enfin peu importe, et surtout peu importe à l'intérieur de quoi on va les installer, puisque ce sont des décors qui sont entièrement factices. Et j'aime particulièrement cette représentation de la boîte aplatie avec les quatre élévations autour du plan. On voit bien que dans le plan, il ne se passe pas grand-chose, c'est-à-dire qu'il y a juste des éléments mobiliers posés. On n'est pas dans une interprétation spatiale ou volumique de l'espace. On est dans une interprétation complètement à plat de quatre vues frontales, dont on se demande si, quand on va refermer la boîte, ça va vraiment créer un espace possible, enfin intéressant. Bon, ça vous connaissez tous, mais c'est juste pour rappeler que peut-être qu'à ce moment-là, le mouvement Arts and Crafts est la possibilité et l'idée d'une réconciliation possible entre cet idéal de l'architecte d'essayer de produire un projet cohérent qui offre de bout en bout du plus petit objet jusqu'au jardin, car chez les Arts and Crafts ça va jusqu'au paysage, qui offre une sorte de continuité de la pensée et de la conception, et en même temps la possibilité d'un artisanat d'art au sens le plus noble du terme, avec un respect pour la production et pour le simple ouvrier qui pour eux est aussi un auteur. Alors, dans la deuxième moitié, je vous annonce peut-être un peu la trame. En fait, on va avoir une grande partie sur le 19e, parce qu'il me semble que c'est là qu'à peu près tout va s'énoncer. Et puis après, on va faire un saut rapide pour aller tout de suite aux années 60, ou très très vite. Donc je m'arrête sur cette deuxième moitié du 19e, parce qu'il se passe énormément de choses, et tous ces mots, notamment, sont énoncés à ce moment-là et donc fondent en fait l'ensemble de nos pratiques. Bon, là, je ne vais pas m'arrêter longtemps, et c'est deux exemples parmi de multiples autres. Simplement, bien réaliser que c'est dans ces derniers quarts du 19e siècle que s'invente, que s'énonce la notion de Gesamtkunstwerk, c'est-à-dire d'œuvre d'art totale, hein, dont Wagner... concept que Wagner a piqué à un philosophe allemand en disant « Moi, ce que je fais, Bayreuth, c'est de l'œuvre d'art totale, donc c'est du Gesamtkunstwerk. » Voilà. Alors après, appliqué à l'architecture, c'est l'idée d'une œuvre d'art qui englobe la totalité des éléments qui rentrent dans sa composition. C'est-à-dire, pour une architecture, c'est de la poignée de porte ou de la fourchette sur la table jusqu'au jardin, encore une fois. Et évidemment, Wright, qui disait clairement qu'il souhaitait faire de l'architecture une œuvre d'art totale, donc il énonçait ce terme-là en ces termes-là, Wright, évidemment, le père de l'architecture organique, et a produit, entre autres, avec Gaudi, Horta, enfin tous ceux que vous connaissez, tous ceux que vous avez vus en histoire de l'art, et qui sont tous concentrés dans ces dernières 25 dernières années du 19e et 10 premières du 20e siècle. Alors ici, j'aime beaucoup les dessins en plan, parce que sur le plan de Wright, entre l'élévation et le plan, enfin, vous voyez bien cette indistinction complète de la limite, c'est-à-dire que cette idée d'œuvre d'art totale, il y a aussi une notion de continuité du geste, du mouvement, enfin du travail entre le dedans et le dehors. Et même si dans la Hill House de McIntosh, on peut remettre en cause cette notion de continuité, puisque la façade extérieure est au contraire tout en rudesse de crépi volontairement extrêmement abstrait. Donc on est dans un travail de masse finalement qui a peu à voir avec la subtilité des intérieurs. Néanmoins, la continuité se lie dans une inversion du processus qu'on a vu tout à l'heure chez Blondel, qui est là qu'on part de l'intérieur très clairement, et que vous voyez dans ce joli plan de la chambre principale de la Hill House, c'est l'espace, la bulle intérieure, l'espace vide qui est montré en plein, contrairement à la représentation habituelle des plans d'architecture où ce sont les murs qui sont pochés et l'espace central qui est blanc ou vide. Ici, c'est l'espace qui pousse en quelque sorte. Et l'espace, il pousse parce que ce sont des meubles qui sont en train de pousser, de s'épanouir et donc de repousser les limites de la paroi extérieure. Donc on est dans le travail exactement exactement inverse de celui de Blondel auparavant, mais dans le même degré de fusion entre le dedans et le dehors. Donc la fusion ou l'intime connexion entre la structure bâtie et l'habité intérieur peut se jouer de diverses manières. Elle peut se jouer dans un sens d'assujettissement ou dans un sens, au contraire, de création organique. Là, on est plutôt dans le sens de l'organicité du plan. Et cette idée du partir de l'intérieur pour fabriquer les murs a été évidemment revendiquée par McIntosh, par William Morris, par Wright. Même Le Corbusier a dit qu'il fallait partir de l'intérieur pour fabriquer les murs. Alors en Amérique, cette dame merveilleuse a son grand livre, Catherine Bisher, féministe abolitionniste américaine, la sœur de Harriet Beecher Stowe qui a écrit La case de l'oncle Tom, a passé de 1840 à 1870 jusqu'à sa mort. Pendant 30 ans, elle a écrit un certain nombre de livres sur le foyer de la femme américaine. Donc pour elle, la femme était le pilier de la société américaine. Alors évidemment, féministe à l'époque, ça voulait dire absolument pas ni s'engager en politique, ni sortir de sa maison. Mais par contre, c'était être pilier d'un foyer, c'est-à-dire en être la garante, la créatrice, être épouse, mère, éducatrice, infirmière, gestionnaire, etc., etc., et j'en passe. Et donc, pour ça, il fallait repenser le foyer pour pas avoir à s'encombrer de choses inutiles et repartir de bases saines et solides. Donc, le foyer est une sorte de micro-écologie qu'on essaye de refonder à partir du mouvement, à partir des gestes, à partir des choses vraiment utiles et nécessaires à la vie de tous les jours. Et c'est en ce sens-là qu'on peut parler, à propos de Catherine Bisher, d'un proto-design. C'est-à-dire qu'elle se préoccupe de partir réellement de ces micro-usages quotidiens pour définir comment les choses devraient se dessiner. Donc là, vous voyez un agrandissement sur la droite du morceau de cuisine qui est au centre de la pièce principale, dans l'autre sens, dans le dessin du centre. Et petit à petit, c'est en dessinant en plan ces organisations spatiales qu'elle en arrive, parce qu'il y a 30 ans, en fait, entre les premiers dessins en plan et les dernières représentations en élévation, où on en arrive finalement à émettre des formes, enfin, qui sont pas vraiment c'est pas très formel, hein, tout ça. Mais en tout cas, à un moment donné, ça prend corps, et ça devient des espèces d'objets qui permettent d'habiter. Alors, objets qui donc fondent le foyer, et qui s'installe par contre dans un plan tout à fait conformiste, un plan standard de maison américaine standard, autour de laquelle, dit-elle d'ailleurs, on pourrait choisir une façade ou une autre, ça n'a guère d'importance. D'ailleurs, elle laisse le soin aux architectes de savoir décider les façades qui sont au bon bout de l'époque. Donc en gros, pour elle, la façade n'a guère plus d'importance que d'être en adéquation avec la convenance et le bon goût du moment. Donc c'est quand même assez amusant de se dire qu'à ce moment-là, la façade n'est qu'une espèce de carton épinglé qui pourrait être une chose ou une autre, peu importe finalement, du moment que le foyer a été bien constitué de l'intérieur. Alors ici, on est toujours en Amérique, il se passe beaucoup de choses en Amérique, au 19e pour nos pratiques. Edith Wharton, qui va être une romancière à succès, écrit son premier livre avant de se lancer comme réelle romancière. Elle écrit son premier livre avec son ami architecte Ogden Codman, et donc ils écrivent The Decoration of Houses. Et sous ce terme de decoration, en fait, ils utilisent pour la première fois le terme de interior architecture en anglais, donc par opposition à interior decoration. Donc pour eux, une bonne décoration ne peut qu'être architecture intérieure. Et ils énoncent en préalable à leur ouvrage, qui est très documenté, extrêmement référencé historiquement, que leur entreprise a pour objectif de fonder la décoration comme étant une branche de l'architecture. Donc on voit bien que l'histoire de l'architecture intérieure nommée en tant que telle à ce moment-là est nommée en référence à l'architecture. Par contre, ce qui est assez paradoxal, donc il n'y a bien entendu aucune photo d'architecture extérieure dans leur ouvrage, où on a quand même une centaine de planches, donc pas une seule fois on ne verra une façade de bâtiment. Par contre, toutes les planches extrêmement référencées historiquement, que vous voyez en haut, font balaient tout le grand art décoratif français des 16e, 17e et 18e siècles. Donc on a Fontainebleau, Versailles, etc., largement représentés. Et puis on voit en bas donc un projet de Codman, qui donc s'appelle bien ameublement antiquaire, et donc on voit bien que même s'il le fait différemment, sans doute de façon plus précise et plus attentive que les entreprises de décoration qu'on a vues précédemment, néanmoins c'est bien un travail historicisant, éclectique, où il est capable de faire de l'ameublement antiquaire dans n'importe quel type de bâtiment. Donc finalement, assez curieusement, là où s'énonce pour la première fois le terme architecture intérieure comme une branche de l'architecture, finalement la relation entre ce qui est proposé en tant que projet et le bâtiment lui-même a plutôt rapport à une question de décoration que vraiment d'architecture intérieure, au sens où on l'entend aujourd'hui en tout cas. Et cette dame extraordinaire, qui s'appelle Elsie de Wolfe, qui est une des premières vraies décoratrices américaines, donc qui invente vraiment le métier de décoratrice. Alors, pourquoi elle invente quelque chose de nouveau? Parce que par rapport à ces entreprises de décoration qu'on a vues précédemment, qui fournissent du matériel, des tissus, des objets, des mobiliers, etc., elle devient vraiment une conseillère prescripteuse qui dessine, qui fait des plans et qui essaye de comprendre surtout quelle est la demande des personnes qu'elle va conseiller. C'est-à-dire qui essaye de se poser la question d'une fonction d'habiter, contrairement aux autres qui ne se posent une question que de décoration. Donc finalement, en revendiquant très fort, c'est presque l'inverse des précédents, en revendiquant très fort le terme de décoration, elle fait bien plus que de la décoration. Donc les trois termes qu'elle met au cœur de sa pratique, c'est suitability, simplicity and proportion, donc usage, simplicité et proportion. Donc on voit bien à nouveau la tension entre les termes d'usage et d'esthétique, hein, pour proportion. Et puis surtout, elle dit une chose qui me fait beaucoup rire, elle dit « l'homme a fait la maison, mais la femme a fait mieux que lui, elle en a fait un foyer ». Donc, en clair, pour la première fois est énoncée cette différence essentielle entre the home et house, donc la maison et le foyer. Donc la maison construite et le foyer habité. Et c'est une distinction que reprendra Rainer Banham dans les années 60 en disant « home is not a house ». Donc voilà, c'est Elsie de Wolfe qui, la première, dit ça très clairement et qui, en se moquant gentiment des grands architectes, dont, dit-elle, quand on se promène dans les rues de New York, on reçoit l'impression fantastique que quelque architecte géant a dupliqué dans la ville des milliers de maisons semblables. Donc la seule photo de bâtiment qu'elle montre dans son livre, c'est cette maison new-yorkaise qui donc agit pour elle comme une image repoussoire absolue, puisqu'elle dit il y en a 1000 comme ça dans la rue, ça ne ressemble à rien, comment peut-on imaginer tous habiter la même maison alors que nous sommes tous différents? Donc elle propose d'investir ces maisons et de leur donner une vraie singularité, singularité qui serait enfin à l'image de la singularité de chaque habitant, ou plutôt chaque habitante de ces maisons toutes semblables de l'extérieur. En même temps que donc ces œuvres d'art merveilleuses, totales, ou ces décorations extraordinaires pour des gens très riches et très singuliers ont cours en Amérique et ailleurs, on se préoccupe aussi en même temps, dans la dernière partie du XIXe siècle, d'habitat social. Et finalement, au moment où ces préoccupations commencent à voir le jour, dès le départ s'opposent deux visions de cet habitat social, dont la vision de gauche, la première, a plutôt globalement pris le dessus en règle majoritaire, qui serait d'une part donc ces architectes qui se sont spécialisés, comme certains, comme Labussière, dans le social, dans cette toute fin du XIXe siècle, et l'ont très bien fait d'ailleurs, et donc qui maintenaient l'idée que pour arriver à faire vivre de façon correcte, à faire habiter de façon correcte des gens qui n'avaient pas les moyens, qui avaient très peu de moyens, il fallait leur dessiner de la façon la plus précise possible le logement qu'ils allaient intégrer. D'où, par exemple, cette très très jolie cuisine en alcôve inventée en 1905, et pas du tout en Amérique, comme on parle de cuisine américaine, mais là, ici, à Paris. Et voyez le plan au-dessus où tout est effectivement extrêmement dessiné et donc intégré dès le départ dans les murs pour que l'habitant arrivant puisse s'installer d'emblée dans un habité soi-disant impeccable et soi-disant à ses mesures, bien qu'il n'en ait évidemment rien choisi. Et puis, à l'opposé de cette vision-là, Francis Jourdain, entre autres, alors, bien entendu, hein, d'un côté, on a une vision quand même plutôt paternaliste, gentiment paternaliste, mais quand même, et de l'autre côté, une vision pour Jourdain, quand même socialiste engagé, enfin artiste social revendiqué, qui lui, au contraire, prétend que le logement pour les ouvriers, ça devrait être le plus nu possible et le plus libre possible, et que par contre, il faut inventer, produire et proposer des familles de mobilier qui permettent à chacun de s'équiper comme il le souhaite et d'organiser son espace comme il le souhaite. Alors évidemment, c'est un peu utopique aussi de penser peut-être que dans un logement microscopique, on arrive à créer de la modularité réelle avec ce type de mobilier. Mais néanmoins, l'idée est là. Hein. Donc d'un côté, un espace prédéterminé et très dessiné, et de l'autre côté, un espace le plus neutre possible avec des objets qui permettent de l'aménager. Alors, après ce balayage très rapide, j'en arrive donc aux trois grandes catégories que j'ai déjà énoncées, en fait. Hein, simplement, j'ai essayé de classer tout ce qu'on a vu jusqu'ici. Donc, si on devait rapidement les classer, elles y sont pas toutes, mais vous voyez, donc, on a décor sur mesure composant, donc le sur mesure correspondant à peu près à l'architecture intérieure. Alors, si... Je vais vous dire un peu plus précisément quand même ce que j'entends par chacun de ces termes. Donc le décor, je dirais que c'est une intervention de recouvrement des surfaces existantes, donc une sorte de couche mince, une couche en plus, qui ne transforme physiquement ni la structure des lieux, ni sa volumétrie, ni ses interfaces avec l'extérieur, mais qui peut donner l'illusion de cette transformation par modification de la perception. Donc peinture, fresque, patine, tapissier, ensemblier, etc. Le sur-mesure, à l'inverse, fabrique un ajustement parfait entre l'intérieur et le bâti, comme une doublure épaisse à géométrie variable. Il crée un vide d'air en chaque endroit nécessaire pour glisser des poches d'usage entre la peau extérieure et la peau intérieure. Donc le sur-mesure est capable de faire passer, dans le cas de la Hillhouse, de la rigueur ou du rugueux des murs de façade à la souplesse d'un fauteuil inséré dans une bibliothèque qui semble elle-même une dilatation de la paroi interne. Ce sur-mesure est comme la doublure luxueuse d'une solide gabardine, pour évoquer ce que Loos disait de l'architecture et de la relation entre l'architecture et le vêtement. Donc l'architecture intérieure relève évidemment du sur-mesure, elle est par définition contextuelle et intimement liée à l'architecture. Et puis enfin l'histoire du composant, investir l'espace par le composant, ça signifierait occuper une volumétrie intérieure, en faire son territoire, en y installant des objets de toute échelle qui seraient aptes à apporter les qualifications nécessaires à sa destination. Donc des éléments qui peuvent être esthétiques, techniques, de confort, etc. Donc, pour résumer aussi, on peut dire par rapport à l'histoire que le décor et le composant, ou l'objet, sont des formes atemporelles ou transhistoriques de l'habité qui existent depuis toujours, mais chez Bicher ou chez De Wolf, elles font l'objet pour la première fois d'une réflexion spécifique, donc d'un début de théorisation. Et de ces trois formes, celle du sur-mesure est évidemment spécifiquement liée d'une part à cette idée d'œuvre d'art totale, et donc à l'idée d'un auteur unique, d'une continuité entre la structure extérieure et intérieure, et d'autre part à l'invention de la notion d'architecture intérieure. Alors c'est là qu'on va faire un gap un peu rapide pour zapper toute la première partie du XXe siècle, pour passer vite. Donc comment résumer ce qui va se passer pendant les 50 années qui suivent ? On pourrait dire que finalement, il y a une espèce de double mouvement un peu contradictoire, qui est que d'une part, se poursuit notamment dans la vision idéale des modernes, l'idée d'une œuvre d'art totale en architecture, en tout cas de l'idée d'un art, enfin d'une synthèse des arts où tout se concourt vers l'art du sommet qui serait l'architecture, et qu'on essaye d'y aller grâce à l'industrie. Et que les équipeurs, puis les architectes d'intérieur, parce que les architectes d'intérieur s'appelaient équipeurs dans les années 50, qui se glissent dans cette histoire derrière ces architectes, enfin dans les mouvements modernes, vont adhérer à cette idée d'une fusion et d'une mise au service de l'architecture par l'intérieur. C'est-à-dire qu'on va continuer à essayer de tendre vers un seul projet cohérent en travaillant ce sur mesure. Et puis dans le même temps, vous le savez évidemment, l'invention du design, enfin en tout cas la montée en puissance du design tout au long du siècle, et plus particulièrement à partir des années 60, va faire qu'on a quand même un mouvement d'autonomisation au moins professionnelle et petit à petit réellement conceptuelle, qui va faire qu'on a progressivement une dissociation de ces deux univers, qui sont vos deux univers de référence aujourd'hui. Alors, pour illustrer ce propos, je trouve que revenir un petit coup à l'unité d'habitation de Marseille, c'est quand même, ce projet-là est paradigmatique de cette histoire, de ces envies contradictoires, de cette idée de synthèse, etc. Le Corbusier imaginait vraiment faire le test là, grandeur, d'une industrialisation totale. Donc son idée, c'était bien une synthèse totale grâce à une industrie totale. Ça veut dire l'industrialisation totale, c'était à au moins quatre échelles. Celle de la macrostructure, celle de la boîte appartement qui devait être fabriquée, préfabriquée en atelier et amenée par grue sur le chantier. Donc cette boîte appartement comprenant dès le départ, de façon extrêmement dessinée de l'intérieur, deux appartements en quinconce avec un morceau de rue commune intérieure au milieu. Donc deuxième échelle d'industrialisation. Troisième échelle d'industrialisation, les équipements, les gros équipements, cuisine, salle de bain, comme cette cuisine qui a été élaborée par Perrian, qui a valu d'ailleurs une rupture provisoire entre Perrian et Le Corbusier. Et puis quatrième échelle, le mobilier volant, léger, dont il pensait aussi pouvoir contrôler d'ailleurs la production, la conception, ou au moins en tout cas le choisir très précisément. Donc pour lui, il n'était pas question de lâcher prise à aucune de ces quatre échelles d'industrialisation. Bon, dans les faits, on sait qu'il n'a pas réussi à industrialiser ce bâtiment comme il le souhaitait, mais peu importe, on voit bien là à la fois la folie de l'architecte qui veut tout tenir et en même temps la possible dissociation qui se met en place évidemment à partir du moment où ce sont évidemment d'autres qui vont concevoir les équipements et les objets qui vont venir habiter cet endroit-là. Donc, retenons cette macrostructure, en tout cas industrielle, pour passer du côté de l'Italie, qui nous programme très clairement et très vite. Donc là, ce sont les architectes designers italiens, des architectes radicaux italiens, qui, eux, à la fin des années 60, donc programment clairement. Alors là, le raccourci est un peu rapide entre les deux phases, mais je voulais aller vite à la fin des années 70, à la fin des années 60, pardon. Donc on nous annonce la fin de l'architecture. Pourquoi ? Vous connaissez tous ce projet, je pense, qui est le plus emblématique de cette idée-là, que l'architecture n'a plus de raison d'être en tant que catégorie projectuelle. Soit nous sommes directement en connexion des objets à la ville. C'est-à-dire qu'on passe directement des objets à l'urbanisme. Pourquoi ? Parce que, vous voyez la façade de ce bâtiment qui n'en est plus un, qui n'a d'ailleurs plus de façade puisque l'intérieur est continu sans fin et en répétition absolue. Donc il n'y a plus d'extérieur, il n'y a plus de raison de voir le bâtiment de l'extérieur. Donc on est comme dans la grotte initiale, finalement on est dans un univers continu qui n'a plus de limite. Et donc pour habiter cet univers continu sans limite, eh bien il n'y a plus qu'à produire des meubles, objets, des armoires habitables qui n'ont plus à se préoccuper aucunement ni d'orientation, ni de lumière naturelle, alors ni même de volumétrie, puisque vous voyez, on est quand même un peu standardisé à quelque chose qui doit avoisiner les 2,50 m, voire moins de hauteur sous plafond. Donc maintenant qu'on en est là, une seconde. Alors maintenant qu'on est arrivé là, donc maintenant on va revisiter quelques autres inventeurs d'habiter après ceux du 19e, quelques inventeurs. Alors là je suis désolée mais il n'y a pas d'inventrice. Il va falloir que je cherche encore, mais c'est vrai que elles étaient plus présentes au 19e siècle que, curieusement, qu'à la fin du 20e. Donc maintenant vous y êtes, parce que là vous avez quand même l'air d'être plutôt féminine que masculin dans la salle. Donc voilà. Donc on attend la relève de cette modernité-là qui est toujours, je pense, la modernité qui fonde les pratiques d'aujourd'hui. Alors, Romuald Witwicki, dont je n'ai pas su accrocher de portrait au-dessus. Si quelqu'un trouve un portrait de Romuald Witwicki, je suis très preneuse, parce que ce monsieur a totalement disparu des annales après avoir fait l'objet d'un nombre de parutions incroyables en 1969, quand il a créé cet espace polyvalent. Voilà, il avait fait ses études à l'école spéciale d'architecture, et puis après il est parti à New York dans l'agence de paye, et puis il a produit de ses propres mains un prototype de cet espace polyvalent qu'il destinait à une industrialisation de masse pour changer complètement la donne dans la façon d'habiter. Car il estimait que l'architecture ne devait plus être le fait d'architectes, mais celui d'une société s'exprimant par elle-même à travers un processus de production industrielle, et que les outils et les objets produits grâce à ce processus industriel deviendraient des facteurs d'environnement et ne seraient plus jamais paralysés par le volume que définit arbitrairement l'architecte actuel. Donc vous voyez, il s'installe, il vit, il travaille chez Paye, il habite dans un studio construit par Paye. Et il dit que ça va pas du tout. Enfin, voilà, il faut inventer quelque chose qui abolit, en fait, qui annule la sensation d'une enveloppe, la présence d'une enveloppe architecturale. Donc, son espace polyvalent spatio-temporel programmable dans ce petit studio. Il parle d'activateurs jaunes et rouges. Alors donc on a de la modularité, on a des espèces de meubles qui se transforment dans tous les sens. Je ne peux pas faire mieux que de vous lire ce qu'il dit, puisqu'il propose une combinatoire programmable, donc au moins 12 scénarios différents d'implantation dans un espace qui doit faire à peine 30 mètres carrés. Donc il était quand même très très optimiste. Et donc il disait qu'il faudrait mécaniser les mouvements des composants, mouvements ordonnés par un ordinateur sur lequel serait programmé un nombre infini de combinaisons possibles associant musique, mouvement et variation de lumière, projection de diapositives, courant d'air, différentes bouches de soufflage d'air conditionné, mouvement des plateformes, expansion et rétractation de l'espace, changement de la forme du volume, staticité et indétermination de l'espace pourraient également être incluses dans la programmation. Donc vous imaginez, tout ça sur ordre, on est quand même en 69, hein, donc on est plus qu'au balbutiement de l'informatique. Il imagine qu'une espèce de domotique, de proto-domotique incroyable qui permettrait même de faire changer la configuration spatiale. Donc là, les plateformes bougent, coulissent en hauteur, en largeur, etc. Et bien entendu, on n'a plus aucune référence à l'espace extérieur non plus, c'est-à-dire que la baie qui donne sur l'extérieur est complètement occulté par des diapositives ou par des filtres textiles. Donc voilà cet espace dans différentes configurations, et en configuration réception, donc où l'image prend tout l'espace. Alors, Olivier Mourgue, vous devez peut-être un peu plus le connaître. Lui, il a fait l'école Boulle et puis ensuite les arts décoratifs. Et pendant ces quelques années, là, à la toute fin des années 60, il ne parle que d'habitat ouvert. Cet habitat ouvert devant permettre un nomadisme en intérieur. Car, dit-il, l'homme à venir doit être en mesure de nomadiser. Et nomadiser, c'est pas seulement nomadiser dans le territoire, comme Archigramme, hein, mais c'est nomadiser en intérieur. Donc, comment nomadiser en intérieur ? Alors, une de ses propositions les plus importantes, on va dire, c'est dans le cadre des fameuses expositions Visiona à Cologne, où il travaille pour la firme Bayer. Donc il travaille quand même pendant 2 ans sur ce projet qui va être montré en 72 à Cologne, qui est donc un habitat ouvert dont l'expansion possiblement irait à l'infini, puisqu'on est sur une trame carrée et que si là on a 100 mètres carrés, on peut très bien imaginer se répandre sur 200, 300, voire plus, ou se réduire si on en avait besoin. Et donc là, vous voyez que les lieux, l'idée est que l'espace est bien entendu complètement ouvert, donc on a une sensation d'espace plus grand, dit-il, puisqu'on n'a pas cloisonné et que les espaces d'intimité, comme les chambres, sont ici réduites au minimum vital, c'est-à-dire 4 mètres carrés pour mettre un grand lit, et qu'on peut les positionner où on veut, et puis après on a des espèces de grands rails comme ça, là en S, qui permettent, si on le souhaite, de se cloisonner en faisant coulisser des grands éléments qui sont des éléments de rangement. Bien entendu, on a aussi des micro-architectures qui sont le bain et la cuisine, et tout ceci est aussi intégré dans le sol, c'est-à-dire que l'idée d'un espace horizontal aussi sur lequel on va pouvoir être en permanence allongé ou assis, on ne marche plus. Hein. C'est-à-dire qu'on nomadise, mais on nomadise à plat ventre quasiment. Enfin, on est... Et puis, il va ensuite imaginer de rendre accessible à chacun cette possibilité d'aménager cet habitat ouvert n'importe où, et donc de produire industriellement ces sortes de chariots de 4 mètres carrés chacun. Projet qui n'a jamais été finalisé, mais en tout cas qui était vraiment l'idée d'une industrialisation, enfin d'une production de série. Et puis pour finir, il va travailler avec le Mobilier National, avec l'atelier de recherche et de création du Mobilier National, pour mettre au point, enfin pour essayer de faire la démonstration que son système d'habitation peut fonctionner dans un appartement standard. Alors il ne va pas choisir n'importe quel immeuble standard, parce qu'il choisit pour produire ce qu'il appelle son mécano libre, il choisit le mécano de Lodz, c'est-à-dire un bâtiment qui a été lui-même construit comme un mécano en métal et qui devait à l'origine permettre que chaque habitant fabrique son plan de façon spécifique et même choisisse sa façade quasiment à la demande. C'est-à-dire que la structure du bâtiment devait permettre une totale individualisation de chaque logement, ce qui n'a évidemment pas été le cas, parce que vous voyez bien dans le plan qu'on a au contraire, comme je vous en parlais tout à l'heure, une prédétermination des logements qui n'a pas du tout été dans le sens de ce qui était imaginé au départ. Donc Mourgue prend ce bâtiment pour ce qu'il était censé être au départ, et donc il gomme un F4 entier de 80 mètres carrés, il le rend tout blanc, il enlève toutes les cloisons, et il essaye de s'installer à l'intérieur de ces murs, qui n'en sont plus d'ailleurs dans ses dessins, où on ne sait même plus s'il y a une entrée, s'il y a des fenêtres, voilà, ça n'a plus aucun intérêt. Il y a juste une gaine quand même. Alors selon que la gaine est au centre ou selon qu'elle est en périphérie, on peut s'installer différemment dans l'espace. Voilà ce qui est proposé là en plan et ce qui va devenir un prototype, donc fabriqué grandeur par le Mobilier National, voilà, mais qui n'a jamais en fait qui n'a jamais été au-delà de cette proposition prototype qui n'a pas été testée finalement dans l'immeuble de Lodz et qui n'a été habité par personne. Alors Paulin, lui qui a été à Camondo, hein, pendant un moment, voilà. Oui, oui, me dit Pascal. Oui, elle confirme. Donc Pierre Paulin, qui parle aussi beaucoup, qui parle de nomadisme aussi, qui va aussi produire un habitat que je ne vous montre pas là, mais qui n'est pas l'objet principal de son travail, mais qui parle aussi de nomadisme et de tente à l'intérieur de l'architecture, mais de façon beaucoup plus métaphorique et beaucoup moins souple que Mourgue. Lui, en fait, il produit des formes de tente, souple ou rigide. En tout cas, ce qui est frappant dans tout cela, c'est sa volonté revendiquée d'ailleurs de voiler l'architecture, de la masquer. Ça ne l'intéresse absolument pas éventuellement de l'exalter, de la mettre en valeur. C'est pas du tout ça son propos. D'ailleurs, il dit clairement, que dit-il clairement, qu'il ne travaillait jamais avec les architectes, qu'il n'y avait pas de collaboration entre les architectes et les designers. Et ce qu'il voulait, c'était voiler l'architecture, voire faire disparaître l'environnement. Donc, voilà, on a là clairement un travail de double peau qui est complètement autre, enfin, qui n'a rien à voir avec le bâti. Voilà, ce travail incroyable quand même dans un bâtiment classé où, pour produire donc sa double peau, va être fabriqué par... va être préfabriqué en atelier et monté sur place pour ne surtout pas abîmer l'existant, mais néanmoins va totalement contredire en volumétrie le bâtiment d'origine. Et de la même façon ici, alors on n'a pas du tout le même type de volumétrie initiale, mais on est dans une sorte de décor absolu en trois dimensions où le sol et le plafond font de l'espace, et ces énormes, enfin ces gigantesques sièges en fils qu'il a lui-même dessiné, hein, qui sont en production de série aussi, qui fondent complètement les parcours et le paysage de ce lobby d'hôtel qui n'existe plus aujourd'hui. Alors, Pantone, de la même façon, produit des espaces qui neutralisent complètement l'architecture existante. On le sait bien, et c'est une espèce de dope art spatial où il travaille, il est lui-même auteur des graphismes, des textiles, des couleurs, des objets, donc où il a un contrôle sur la totalité du cadre. Mais ce qui est plus singulier chez lui, je reviens à l'image précédente, c'est que partant de ces espèces d'ensembles décorés qui annulent spatialement l'architecture existante, en fait, il va de ce travail d'ensemblier, on va dire, vers un travail de designer, et qui est un travail de designer de composants, on pourrait dire composants de seconde œuvre, c'est-à-dire qui vont permettre de fabriquer ces parois. C'est-à-dire qu'il il dessine petit à petit un certain nombre d'éléments qui vont être produits industriellement et qui sont comme une sorte de grammaire, un certain nombre d'éléments de vocabulaire finalement dont il fait une grammaire formelle et avec qui donne d'ailleurs des indications assez précises sur la façon dont on devrait utiliser ces éléments qu'il fabrique, qui sont des éléments donc de lampes, de murs, de plafonds, de sol, de textiles, etc. Donc ces indications sont assez claires sur la façon dont on devrait user et utiliser cette grammaire. Donc il me semble qu'il y a là une espèce de, comment dirais-je, d'autres folies démiurgiques qui serait de parvenir à reproduire n'importe où finalement sur Terre un environnement à l'identique à partir de ses propres objets fabriqués, de ses propres mots de vocabulaire fabriqués industriellement. C'est Enzo Mari qui parlait du renouvellement d'une langue alphabet inclus à propos du renouvellement ou de l'invention du design dans les années 70. Ben on peut dire que Pantone a produit une langue, en fait, et finalement n'importe qui peut parler en Werner Pantone en achetant des éléments de Werner Pantone. En plus, on a le mode d'emploi. C'est-à-dire qu'il vous dit qu'il ne faut pas mettre le vert à côté du rouge, etc., etc. Bon. Et ce projet-là de meubles modulaires en est l'expression assez forte de cette volonté démiurgique, dans le sens où, alors là, voilà, si ça marche, je vais quand même au moins vous montrer ça. Autorisé, voilà. C'est un petit film promotionnel. On va se mettre en entier. Alors là, moi, je ne sais pas faire avec... Il faut que je fasse ça. Hop. Voilà. Donc c'est un petit film promotionnel pour ce mobilier modulaire. Et où on voit à quel point, pour une fois, là, c'est le designer qui est démiurgique, c'est-à-dire qu'il crée un monde à partir de rien. Il n'y a rien au départ, et un paysage entier va se fabriquer grâce à ces objets répétitifs et sériels. Donc il y a même du vent, hein, donc on est vraiment, voilà, c'est absolument tellurique. On est dans le... Bon, je pense que là, ça suffit. On va attendre qu'elle vienne s'asseoir vers nous, puis après...
Es ist fühlbare Wirklichkeit. Denn so wie die Zeit keinen Stillstand kennt, wollte sie sich nicht selbst verleugnen, so ist auch unser Tun und Trachten.
Voilà. Bon, ça, c'était les premières secondes qui m'intéressaient. Après, je ne sais plus comment on fait pour sortir de là. Bon, non, ça ne veut pas. Je suis vraiment naze avec un Mac. Je ne peux rien faire. Merci. Voilà. Et donc, avec notre dernier héros du jour, et ben évidemment, Joe Colombo, qui est quand même celui qui aura théorisé cette histoire de refabriquer l'habité de façon totalement indépendante des murs, mais même plus que ça. Non seulement il prétend que ce sera indépendant, mais il prétend refondre complètement l'environnement humain à partir de ce qu'il appelle le microcosme de l'homme. Donc les deux grands articles de Colombo, c'est anti-design et du microcosme au macrocosme. Donc l'idée, c'est que, il dit que jusqu'à maintenant, on procédait toujours de l'urbanisme vers l'architecture et de l'architecture vers le mobilier, et qu'il s'agissait d'inverser tout ce processus et de repartir du microcosme, et à partir de là, de refonder la ville. Alors on ne sait pas comment il l'aurait fait, puisqu'il est mort, comme vous savez, en 71 à 41 ans d'une crise cardiaque, et donc il n'a pas eu le temps de refonder la ville. Mais il a eu le temps de fonder le microcosme jusqu'à quand même un stade relativement avancé. Alors, donc je n'ai choisi dans ces projets que ceux qui parlent de ces attrezzature. Alors, les attrezzature en italien, ça veut dire équipement en français, mais c'est un terme qu'il revendiquait très spécifiquement pour définir ces grands objets, ces grandes machines habitables. Donc, on part de la mini-cuisine, le personnel container, le roto-living et le cabriolet-bed, et on a là toutes les fonctions vitales, hormis la pièce d'eau, la salle de bain, qu'on va trouver dès cette même année dans cette exposition Visiona, donc l'équivalent de celle qu'a fait Mourgue, qu'on a vu plus tôt, où là, on a bien toutes les fonctions vitales réunies sous forme de ces énormes objets mobiliers. Ici, le lit avec la salle de bain, c'est donc un ventre qui est le bain. L'air libre qui est l'endroit, on va dire, le séjour, le divin, enfin le lieu de repos. Ici, là où il y a à la fois une télévision et des livres. Et puis, la cuisine, salle à manger. Bien entendu, comme vous le voyez, l'expression de cette bulle qui environne les trois micro-architectures montre bien que on ne sait pas où on est, qu'on ne sait pas où on rentre, qu'on peut rentrer partout, que la bulle elle peut se dilater autant qu'on veut si on écarte chacun des objets les uns des autres, etc. Bon, alors là j'ai un autre petit film, mais on va peut-être pas avoir le temps. Alors je vais... Et donc ces objets à l'intérieur desquels on entre là, c'est-à-dire l'unité centrale, la cuisine avec la salle à manger et le bain, la bulle là sur la gauche qui est l'espace bain et le lit qui nous correspond. Et puis, dernière étape, donc juste avant de disparaître finalement, il produit ce dernier objet qui va être mis au point pour l'exposition à New York, The New Domestic Landscape. et qui est donc l'extrême contraction de cette idée de machine à habiter, mais machine à habiter pas au sens corbusien étanche et en extérieur, mais machine à habiter en intérieur. Donc cette machine à habiter, elle a une emprise au sol de 28 mètres carrés, et dans 28 mètres carrés, on a absolument tout ce qu'il faut pour vivre, enfin, tout ce qu'il faut pour vivre selon les normes colombiennes. Hein. C'est-à-dire que c'est... après, ça peut se discuter. Vous voyez, là, par exemple, on a la table avec les sièges, donc pour manger, voire pour travailler. Et puis, quand on rétracte la table et qu'on enlève les sièges, à ce moment-là, on peut tirer les lits. Et vous remarquerez que vous avez deux lits individuels. Hein, donc ça rigole. C'est, quand même, c'est pas super rigolo, quoi, le Total Furnishing Unit. Et puis, donc on a le bain dans un de ces placards. Ici, c'est pour ranger les vêtements. Et puis la cuisine, là, sur le côté. Voilà. Donc cet espace est accompagné d'un mode d'emploi. On voit qu'il se branche, qu'il se connecte à des réseaux par le haut, et que le mode d'emploi permet de comprendre tout ce qui peut se tirer, se coulisser, se déplacer, et permet de comprendre aussi qu'en fait on peut défaire les éléments les uns des autres, c'est-à-dire qu'on peut défaire la cohérence de l'ensemble et du coup éventuellement s'étaler sur plusieurs centaines de mètres carrés si on le souhaite. Alors, j'arrive à la fin. Hein. Ce qui m'intéresse ici tout particulièrement, c'est quand Colombo, finalement, rapatrie son rotoliving et son cabriolet bête dans son propre appartement de la Via Argelati à Milan. Et quand il les amène chez lui, finalement, évidemment, il ne se contente pas de les poser. Et évidemment, il y a un travail très précis qui est montré là par ce plan, où il évalue toutes les possibilités de mouvement, les points de vue, les perspectives, les usages possibles. Et évidemment, il y a la nécessité notamment de rajouter ce grand arc de cercle qui va être cette paroi coulissante qui permet en fait d'isoler les deux objets l'un de l'autre si on le souhaite. Donc finalement, quand il rapatrie ses machines-objets chez lui, il opère un travail de sur-mesure, d'incision, de précision. Il crée le lien entre l'architecture existante telle qu'elle est, enfin comme elle lui est donnée, et les objets. Donc il y a bien un ajustement. Et évidemment, ces objets ne sont pas juste tombés et atterris par hasard. C'est pour dire que... C'est pour dire que, évidemment, si aujourd'hui, c'est un peu rapide là, mais évidemment, ce travail sur ces objets habitables, on est encore nourri de ça aujourd'hui. Enfin, c'est quelque chose qui est constamment et encore réinterprété actuellement. Sauf que la question essentielle que ça pose en termes de qualité d'habitabilité, c'est celle de la tension entre qui peut s'établir entre cet objet et l'environnement qui le reçoit. C'est-à-dire que habiter les intérieurs continus de la Nostop City, je pense que ça intéresse personne d'entre nous. Enfin, c'est évident qu'on n'a pas envie de ça. Donc c'est sûr que c'est plus sympathique. Enfin, on a plus envie d'aller habiter une cathédrale avec le Total Furnishing Unit que d'aller habiter un appartement de Lodz, même un appartement de Lodz. Donc voilà, je pense que les questions que ça pose, c'est celle évidemment de la relation qu'on peut instaurer entre ces objets et l'architecture réceptrice. Mais ça pose une question évidemment aussi à l'architecture, de quelle nature doit être cet espace receveur si on veut ou si on imagine que le futur de l'habiter, c'est d'habiter grâce à ces objets, à ces micro-architectures, à ces objets composants, à ces choses qui sont totalement exogènes à l'architecture. Si c'est ça le futur de l'habiter, comment imaginer refonder les conditions d'une habitabilité préalable propre à l'architecture? Donc ça, c'est une question qu'on lance aux architectes. Voilà. En tout cas, c'est une question qui est posée. C'est-à-dire qu'on peut toujours développer d'un côté de façon très belle et très formidable toutes les possibilités d'habiter intérieur. Si on ne sait pas comment ça va se connecter et dans quoi on va être reçu, ben ça ne marche pas. Ou en tout cas, si on ne sait pas faire ou si on ne sait pas soi-même produire cette qualité relationnelle qu'il est nécessaire de mettre en place. Voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit.
Alors ça c'est une question compliquée parce que oui, j'ai commencé par dire qu'habiter c'était pas seulement habiter sa maison. Alors non, dans mes recherches je suis allée aussi du côté du bureau notamment, surtout du tertiaire en fait, hein, de l'habitat et du tertiaire, un peu du côté des boutiques aussi parce qu'à certains moments de l'histoire c'est quand même extrêmement important, mais c'est vrai que je ne sais pas te répondre clairement à cette question parce qu'il me semble que l'habitat est quand même voilà, l'axe paradigmatique pour interroger tout ça, mais en même temps pas que, parce que justement il pose bien des questions spécifiques qui ne sont pas les mêmes que celles qu'on a quand on a commencé à aménager des bureaux ou quand on a commencé à aménager des surfaces de vente. Donc oui, les questions ne sont pas les mêmes. Donc je vais vers d'autres champs, mais en tout cas, là, de toute façon, par rapport à ces exemples-là d'inventeurs de la fin des années 60, c'est bien aussi, se sont bien remis aussi sur la question du logement. C'est-à-dire que chaque fois que dans l'histoire, on s'est posé des questions importantes sur cette relation entre le décor, le mobilier, l'architecture, etc., ça s'est quand même toujours cristallisé autour de l'habitat. Alors c'était pas le même habitat non plus. C'est-à-dire Blondel et Jourdain, c'est pas tout à fait le même habitat, mais quand même, c'est toujours, il est quand même toujours question de cette habitation humaine. Au 19e, quand même, Viollet-le-Duc et Garnier écrivent à 20 ans d'écart deux habitations humaines qui sont des sommes de 900 pages, enfin, complètement dingues, où tout est redessiné depuis l'origine des temps. Donc ils éprouvent bien le besoin, eux aussi, pour arriver à produire de l'architecture. Et Garnier, il a fait le Nouvel Opéra de Paris, donc il a fait son histoire de l'habitation humaine. Donc c'est quand même bien, et puis tous les architectes ont bien dit que la maison, Domus, Ponty, enfin tous, ils ont dit que la maison est quand même le premier endroit sur lequel on cherche et sur lequel on se pose des questions à propos de construction et à propos d'habiter au sens large. Donc c'est vrai que voilà. Bon. Voilà, exactement. Donc c'est à la fois pas que ça et en même temps c'est ça de façon absolument essentielle et pour tout le monde. Après, il faudrait chercher peut-être que Donc je vais me rapprocher du 21e siècle, je vais regarder si peut-être, est-ce qu'il y a des gens qui ont essayé de fonder des théories sur le bureau, notamment, oui, il y a des choses, tu vois, à partir de la fin du 20e siècle.
À mon avis, je peux être absolument chez l'un, l'idée de l'architecture d'intérieur naît avec le tertiaire et les plateaux de l'île. C'est le bureau de l'île. C'était effectivement une position un peu.
Alors, votre... Si ce n'est que ça, justement, ce n'est pas de l'architecture intérieure en quelque sorte, c'est du composant. Alors là, vraiment par définition. Parce que elle n'a rien d'architecture. Enfin, je veux dire, occuper des plateaux libres, c'est occuper librement, donc on peut mettre des objets. Donc ce sont des objets qui occupent librement les plateaux libres. Donc c'est pas ce que. Enfin, moi, c'est pas ce que j'appelle l'architecture intérieure, mais. Claude.
Je voudrais revenir, je voulais donner finalement avant de l'exposer, et surtout de forcément la dernière partie, parce que je l'ai vécu de toute façon réellement. J'ai un souvenir magnifique de discuter à 18 mars, assis par terre avec des mots au moment où il présentait les gens qui sont religieux, c'était quand même un moment. En regardant la démonstration, qui est extrêmement rigoureuse, qui montre un moment, mais c'est parce que ce sont des images fixes, et que tout est très très calé, particulier surtout les derniers espèces de Colombo, qui montrent à un moment les coups tirés, alors qu'en réalité, tout le mode de vie, alors qu'il est très calé,
pardon. Oui, Claude.
Voilà.
Le vécu périphérique est extrêmement. Peut-être qu'on est en train de voir très relâché. On vivait au bras du sol, les matelas étaient en terre, le mur apparaissait, le fameux siège emblématique El Saco était l'objet le plus peut-être le performant qui identifie. Ce qu'on ne voit pas, ce qu'on dommage qu'on ne peut pas vivre et qu'on ne voit pas beaucoup, quand ça paraît des espaces très 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 structurés. Mais par rapport à l'application et l'appropriation que s'est fait le public, c'est-à-dire faire des espaces qu'on a modulés, déplacés, je trouve que Castiglioni, d'ailleurs, la peinture que tu as montrée au début de
Messina, oui.
Il y avait un aménagement de Castiglioni à Milan qui était ça, sur des roulettes. Et c'est les secrétaires qui étaient avec leur. Qui pouvaient déplacer les petites cellules. Et je trouve que la mobilité était, existait. On voit beaucoup apparaître le mobilier sur ce qu'on va pouvoir. Vraiment. Et alors, bon, évidemment, je suis bouleversé de revoir cette période très riche et je regrette parce que je dis, tiens, c'est une anecdote, j'ai écrit récemment pour Chantal Amelet de Contramuros qui souhaitait faire une interview de nouveau de Olivier, qui a refusé, il reste dans son bureau en Bretagne, à Cavallo, c'est regrettable, je ne vais pas la voir.
Ah, mais il a accepté d'échanger par mail avec moi, c'est déjà énorme. Mais seulement par mail.
Je vais venir à l'école au long moment, puisque pour ceux qui n'étaient pas en école à cette époque-là, en 2001, on a eu un diplôme de travailler sur 2001. Donc j'avais invité Olivier, il était venu parler, puisqu'il a le privilège d'avoir eu ses meubles choisis pour l'engagement de. Mais ça, c'est un espace extraordinaire. C'est noble de savoir qu'on mettait une télévision au-dessus du lit et qu'on se roulait. Il y a une rupture totale des comportements.
Oui, enfin, en même temps, je sais pas, tu as regardé un peu le déroulement du petit film, là, enfin, je ne sais pas si vous avez vu, Rupture des comportements, certes, mais quand même, par rapport à la façon dont on le filmerait aujourd'hui, ça, t'as vu la fille avec sa, en soubrette, là, qui vient servir le mec, enfin, c'est extraordinaire, quoi, c'est quand même, c'est fantastique, on n'est pas dans un relâchement, alors, bon, c'est Bayer, c'est le film promotionnel, machin, tout ça, je sais pas, bon, mais c'est quand même pas un laisser-aller, en tout cas dans l'image promotionnelle qui est... bon, peut-être la façon dont on imaginait le vivre, en tout cas l'image qui en est montrée, qui en est... Oui. Non, mais je parle du comportement que ça induisait. Je trouve que au niveau des films promotionnels, les comportements induits sont en fait encore très modélisés par l'époque, si tu veux. Tu vois ? Ah oui, c'est une grosse retenue même. C'était pas très... Alors après, parce qu'il y a aussi le...
Et moi, du coup, j'aurais une question par rapport à ce fait que ce soit une révolution. Et d'après vous, pourquoi, par rapport au projet que je vois à l'école et puis en dehors,
ouais.
Pourquoi cette question de modularité et de ouais, cette utopie, pourquoi elle n'est pas...
Pourquoi elle n'est pas davantage passée?
Oui. Enfin,
c'est assez compliqué de répondre à ça, mais je pense que l'architecture y est pour une grande part aussi. C'est-à-dire que c'est ce que je dis à la fin, c'est qu'il faudrait quand même que à un moment donné, il y ait une réflexion commune. C'est-à-dire pour pouvoir projeter d'habiter de cette façon-là. Il faut bien que l'espace dans lequel on va poser ces choses-là soit apte à recevoir ce type de d'habiter. Bah, regardez comment se construisent les logements sociaux aujourd'hui dans Paris. Enfin, c'est impensable. Hein. On est plutôt du côté du truc ajusté au centimètre près pour être à la norme de largeur d'une chambre standard pour enfants, le séjour à 3,60 de large. Enfin, c'est ça le logement aujourd'hui. Donc ça supposerait d'avoir une réflexion en amont, ou bien, enfin nous on peut toujours, enfin je dis nous, hein, je fais comme si on était un truc à part des architectes, mais enfin on peut toujours imaginer tout ce qu'on veut à cette échelle-là, ou sur ce soft architectural, tant que le hard sera hard.
Après il y a là, je pense à l'association AEA, entre urbanisme, architecte, designer, décorateur, bon ils se sont pas... Leur but premier de valoriser cette utopie-là, mais oui, il y a des associations qui peuvent se faire.
Oui, bien sûr. Mais c'est vrai que ça reste, ça n'a pas pris le. C'est pas ça qui est majoritaire, quoi. On en est très loin.
C'est pas maintenant, c'est-à-dire que habiter est déjà tellement cher, ensuite, installer le soft à l'intérieur de la
architecture. C'est-à-dire que ce serait un renversement aussi des valeurs, c'est-à-dire qu'il faudrait que l'architecture coûte beaucoup moins cher. Que ce soit donc, en fait, ce serait revoir la No-Stop City, mais de façon ou les mégastructures archigrammiennes, mais de façon réellement concrète, positive, intelligente, enfin pas de façon dystopique, de façon bien quoi, en disant ce serait quoi les conditions minimales pour que on puisse produire une architecture peut-être pas chère, qui permettrait ensuite d'investir davantage dans le soft.
Hein, mais c'est pas anodin que ce soit des espaces qui aient été construits par Bayer.
Ah ben oui.
Il y a évidemment un enjeu économique extrêmement fort qui s'est déplacé vers le composant d'architecture maintenant et plus vers le composant design. Donc maintenant, l'enjeu, il est sur l'isolation, le verre, tous les composants de l'architecture qui font l'architecture de catalogue. Et l'enjeu économique a disparu, sinon après on aurait appliqué à l'intérieur.
Voilà, c'est ça.
Moi j'ai l'impression que vous n'avez pas parlé de l'hôtellerie par exemple. Et bon, on ne peut pas parler de tout, mais certaines de ces expériences se retrouvent dans certains hôtels où justement
oui.
Tout est conçu en même temps.
Oui, absolument, c'est vrai. Non, vous avez raison, oui. Et Oui, tout à fait. Oui. D'ailleurs, non, c'est vrai. On retrouve, enfin, en tout cas, au niveau des pièces d'eau, enfin, des coques salles de bain, par exemple, c'est vrai qu'il n'y a que dans l'hôtellerie qu'on trouve ça de façon. Et même l'idée d'hôtel capsule, enfin, qu'on trouve au Japon, bon, ça, c'est encore autre chose, mais c'est une application de l'idée de micro-architecture capsule pour habiter, donc de façon éphémère, de façon temporaire, pas de façon fixe. Mais c'est vrai que quand on est face à ça, enfin, on dit, il y a eu une telle énergie, enfin, une telle débauche créative, mais aussi débauche de moyens à ce moment-là, hein, qui allait avec. On se dit, bon, qu'est-ce qu'on a fait de tout ça? Comment ça a été? Ah, ça a été finalement assez peu réinvesti. Enfin, ça n'a pas été réinvesti en masse, en tout cas.
Ah oui. Mais c'est une impression de ma part.
Est-ce que le design est en train de prendre le pas sur
j'allais dire, j'ai une vague impression quand même que les exemples que tu montres sont des exemples qui se confrontent un peu du à moi, enfin avec
qui se confondent un peu bien. Ben oui, parce qu'en fait, moi, ce que je pense, c'est que effectivement, l'histoire du avenir, enfin l'histoire du début du 21e siècle, c'est que le grand designer avec un grand G et un grand D prend la place du grand architecte avec un grand G et un grand A. Mais il est autant démurge, il est autant fou. Donc ça s'arrange pas, quoi. C'est-à-dire que à partir du moment où on imagine qu'on va repenser le monde complètement, Colombo, d'une certaine façon, il est aussi fou que Le Corbusier. Enfin, c'est pas habitable son truc. Enfin, c'est génial, c'est drôle comme tout à voir comme ça. Mais bon, moi, j'habiterai là-dedans 2 jours à l'hôtel, effectivement. C'est super. C'est une expérience formidable. Tu passes 2-3 jours là-dedans, mais tu vis pas 10 ans dans le Total Furnishing Unit, là. Ça, c'est même pas pensable. Donc, ce qui est étonnant, c'est de voir à quel point, d'ailleurs, en refondant toujours une vision du logement, de l'habitat, pourquoi tous ils imaginent nous faire habiter d'une façon finalement qui est à leur norme. Enfin, moi, ceux qui me sont le plus sympathiques, c'est plutôt les Jourdain, Kroll, etc., enfin, qui ont plutôt imaginé qu'il fallait surtout que ce soit les habitants qui soient les créateurs d'habiter, et que donc il fallait leur donner des clés, des outils, des moyens d'eux. Alors évidemment, ceux-là, j'en parle pas du tout, parce que c'est beaucoup moins expressif. Hein, évidemment, il y a beaucoup moins de choses à voir, puisqu'ils ont dit faut dessiner le moins possible, faut laisser faire les gens, et faut leur donner des outils pour faire. Donc ceux-là, ils apparaissent pas là dans mon histoire, parce que là je me concentre plutôt sur ceux qui sont visibles. Et ceux qui sont visibles, eh ben, ils font théorie, et quand ils font théorie, ils disent il va falloir habiter de cette façon ou de cette façon. Et c'est vrai que Colombo ou Le Corbusier, finalement, c'est vrai que ça m'a assez scotché à un moment donné, de me dire finalement c'est les mêmes, quoi. Il y en a un qui est designer, l'autre qui est architecte. Enfin, Colombo était architecte, mais il était très mauvais architecte. Hein. Quand il faisait des dessins de bâtiments, c'était terrible. Mais il y en a un qui est designer, l'autre architecte, mais pareil, quoi. Ils veulent modéliser la vie de la même façon. Et c'est en ce sens-là que je dis que l'architecte, au moment où il théorise, il veut prendre la place de le designer, au moment où il théorise, il veut prendre la place de l'architecte. Donc le designer, en ce moment, veut prendre la place qu'occupait l'architecte. En gros, le travail de théorisation de l'architecture qui s'est fait entre le 15e et le 18e siècle, le design commence à le faire depuis la fin du 20e siècle. Donc je ne sais pas où on va, mais on y va.
Ce qui m'intéresserait de voir, c'est que la démonstration qui est faite là, elle appartient à une mutation extrêmement fulgurante de la société, ce qu'on appelait historiquement les Trente Glorieuses, c'est-à-dire une période des années 65, 75, 73, sous crise pétrolière qui va à un moment réduire les États-Unis et qui va, à travers Colombo, Mouve, Pantone, Poulain et autres, Castiglioni, on a parlé aussi, modifie, met tout un mode de vie qui fait qu'à un moment on va vivre autrement. On casse complètement les codes de la retenue, on a des postures relâchées, l'apparition du mou, tout ça. Alors, est-ce que ce qui me serait intéressant, c'est de voir la mutation qu'on a actuellement, train de vivre, elle est fulgurante. Elle est 10 fois plus forte.
Ah, ça, je... Absolument.
Elle remet en question complètement les systèmes de relations, de communication, l'image, on ne travaille plus de la même façon. Et quels sont les nouveaux espaces que les architectes et designers vont concevoir pour ça? Ça m'interroge.
Moi, j'ai vu des expériences très intéressantes dans l'habitat participatif, collaboratif. Maintenant, on fait des habitats modulables de plus en plus. C'est l'architecture Airbnb, on pourrait dire, et qui est déjà prévue dans les plans. Et ça peut rejoindre certaines initiatives. C'est que ça devient reconstruit pour pouvoir enlever une chambre, revendre une chambre séparément.
Mais ça existe depuis très longtemps en fait. Enfin, ça devient possiblement. Mais tant mieux si ça devient une économie.
Alors. En plus avec les familles qui ne restent pas constantes toute une vie.
Enfin, ça, c'est effectivement une question qui est posée depuis le tout début du XXe siècle. Hein, la flexibilité ou pas des logements. Mais c'est encore un autre pan de l'histoire, mais déjà en 26, enfin, dans l'expérience du Weissenhof-Siedlung à Stuttgart, Mies van der Rohe, il proposait un immeuble flexible. Enfin, donc ça remonte aussi à très très loin, cette histoire de flexibilité intérieure du logement. Oui.
Juste te dire, c'est que ça n'est pas enseigné dans les écoles d'architecture.
Ça.
C'est énorme. C'est ouais. Que vos cousins, ils ne sont absolument pas concentrés sur ce thème-là. Donc vous avez une route à tracer. C'est étonnant parce que.
Non, mais c'est pour ça que la question de la relation, enfin la connexion, je ne sais pas où elle va se faire. Soit il faut que j'aille enseigner dans les écoles d'architecture, soit je ne sais pas. Mais c'est vrai que.
Elle se fait de plus en plus.
C'est quand même.
Enfin, il semblerait quand même que dans les agences, de plus en plus, ils font appel aux designers, aux architectes matériels, et spécifiquement pour ce qu'ils savent faire aussi. Entre autres, scénariser l'usage, la manière d'habiter. Semble se développer là actuellement dans
des agences. C'est la question qu'ils ont en plus. C'est un atelier d'architecture qui fait appel à du pluridisciplinaire. Il est dans une posture de répondre à des commandes.
Oui.
Donc la société est véritablement. Ce qui est encore plus étonnant, c'est que dans les écoles d'architecture, ce ne soit absolument pas quelque chose qui est des étudiants, quand on leur fait voir des choses ici, mais ça leur est étranger. Or, cette école ici, elle est vraiment un moment charnière pour diffuser sur ce terrain-là, évidemment en puisant dans l'histoire.
Enfin, en tout cas, ce qu'il y a de très singulier à cette école, et c'est vraiment votre force, hein, puisque moi j'enseigne à Boulle et c'est pas le cas, et je le déplore vraiment, je trouve ça dramatique, c'est qu'ici n'ont pas été séparées ces deux façons d'aborder l'habiter, que sont le design et l'architecture intérieure. C'est-à-dire que vous menez un cursus sur ces deux plans-là, ça vous paraît évident, mais sachez que ça n'a rien d'évident. C'est-à-dire que dans la plupart des autres écoles, d'art appliqué ou design, on fait soit du design produit, soit du design maintenant dit d'espace plutôt que architecture intérieure. Donc, c'est pas la même culture, parce que la culture de l'architecture intérieure, c'est les architectes qui la portent depuis toujours. D'ailleurs, regardez qui sont les enseignants en design produit et qui sont les enseignants en architecture intérieure. Vous comprendrez bien que vous avez affaire à ces deux cultures. Donc vous avez les deux à la fois. Donc vous avez la connexion possible avec le monde de l'architecture. Alors que ceux qui font du design produit et qui ne font que du design produit, j'en ai vu hier encore en cours, ils me disaient « Ah, on n'a jamais eu de cours sur l'histoire de l'architecture. » Ah ben oui, forcément, ils ont fait du design produit. Donc ils n'ont jamais entendu parler d'architecture. Donc comment voulez-vous qu'ils se connectent avec ce monde-là? Ils ne comprennent rien à ce monde-là. Ils sont terrorisés quand ils voient un plan d'architecture, ils ne savent pas le lire. faut bien comprendre, c'est vraiment deux cultures. Et à l'inverse, ceux qui chez nous font le design d'espace, donc l'architecture intérieure, eh ben, ils n'ont jamais vraiment approché les processus de conception qui sont propres à l'objet et qui ne sont pas les mêmes. Et qui sont vraiment pas les mêmes. Donc il y a, et je pense que c'est un manque énorme. Donc ceux-là, ils sont bien outillés côté architecture, plan, diagnostic bâti, etc., etc. Ça ils savent, mais ils ont pas du tout la culture objet, produit, industrie, etc. Donc ça c'est un truc qui est très spécial à Camondo et qui est très bien à mon avis. Enfin qui est en tout cas une force. Qui est vraiment une... Voilà. Moi, j'aimerais bien faire ça dans mon école, mais c'est pas possible. Question ? Non ? Vous aviez l'air d'avoir une question. Non ? Ah non. Une question non, qui n'a pas franchi le...
Cette idée-là, dans un pays où il y a un tel divorce entre les architectes et la population. Donc la France, une population qui prend l'architecture de l'intérieur et qui va quand même apporter une plus-value par rapport aux grandes surfaces de décoration, etc., pour faire de l'architecture de proximité, pour aider les gens à aménager autour d'eux, pour trouver des expertises, pour... parler d'habitabilité, la réconciliation viendra de cette discipline-là avec la population.
Oui, mais peut-être pas avec l'architecture. Enfin.
À la place.
Ou à la place de. Oui, mais c'est quand même un peu dommage de devoir continuer à aménager des espaces parce qu'ils sont mal foutus et de devoir travailler par l'intérieur, comme Elsie de Wolf, quoi. Hein, dire que. Ils sont nazes, ils ont mal foutu les bâtiments, mais nous, on va en faire des foyers corrects. Mais bon, ok, mais ce serait quand même pas mal que la maison, au départ, soit pas bête non plus, quoi. Hein? Bon.
Merci. Valérie, c'était le cadeau ce soir.